Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio G sur le 101.5 FM et tout de suite on va parler un petit peu de sport avec Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio G et c'est le début de Génération Sport, une émission un petit peu particulière, alors non pas dans le fond mais plutôt dans la forme. Alex n'est pas avec nous pour le début de cette émission mais il arrivera vers 20h30 à peu près, on aura l'occasion donc de l'entendre durant la fameuse chronique du 1-2 à partir de 20h30, mais jusque là c'est une émission spéciale la dalle en juin. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un du club du SCO Rugby, pardon. Je bégaye, mais avant tout, on reçoit Cédric qui est une fois de plus avec nous. Bonsoir Cédric, comment tu vas ?
Ah bon, je suis invité maintenant ?
Oui, tu es invité. Je décide de qui vient dans l'émission et tu es invité ce soir.
Donc je te laisse faire tout ce soir.
Allez, carte blanche.
Carte blanche.
Comment ça va Cédric ?
Petite semaine moins sportif hein, puisqu'il y a d'autres événements dits caritatifs qui ont bien pris le week-end, mais on a pu suivre un petit peu les résultats sportifs des clubs en juin. Notamment, on a eu pas mal de hockey ces derniers temps. C'est vrai qu'on l'avait annoncé l'occasion. Que c'était une grosse période. Voilà quoi. Puis on aura une information aussi qui nous a un petit peu surprise. Je pense qu'on attendra plus que tout le monde soit là pour en parler, mais ça concerne l'UFAB 49 et une joueuse qu'on a reçue récemment.
Ouais, on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion aussi de parler Ligue des Champions puisque ce soir il y aura des matchs. Mais avant tout, on va parler, comme je l'ai dit, rugby avec le SCO Rugby et on reçoit Thomas. Bonsoir Thomas, comment ça va?
Bonsoir, impeccable et puis ravi d'être là avec vous pour parler du club.
Alors juste avant que Cédric prenne la parole pour mener cette interview, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu fais au sein du club du SCO Rugby ?
Ouais, et en gros au SCO Rugby, moi je suis en charge des partenariats et de la communication, donc on va dire de toute la partie marketing et puis j'ai aussi la double casquette, je suis joueur les week-ends avec l'équipe première.
Ok, et très bien, et c'est donc l'heure de mener cette interview. Cédric, la parole est à toi.
Ouais, on rappellera aussi qu'on fera comme d'habitude, on suivra les matchs en direct, notamment le match de Coupe de France des Ducs.
Exactement, qui est contre les Gothiques d'Amiens.
Voilà, champion en titre.
Champion en titre, c'est ça.
Donc, dans le cadre du partenariat avec la dalle en juin, ce soir, on reçoit le SCO Rugby. Tout simplement parce que cette année, c'est une année quand même importante pour le club, puisque c'est le centenaire. Donc depuis le 15 octobre, c'est ça ?
Alors en fait, on a célébré le centenaire, nous, en septembre.
En septembre, mais la date historique, c'est le 15 octobre.
Le club a été fondé en juillet 1921.
Voilà, puisqu'avant, c'était plus une association qui était déjà un peu dans le sport, mais qui n'était pas encore dans le rugby tout à fait...
Ouais, en fait,
au sens section, voilà.
C'est ça, la section rugby a été créée donc 2 ans après le SCO en général, du coup, lui qui est de 1919.
Donc voilà, 100 ans d'histoire, forcément, je pense que ça a dû être une... En plus, avec les événements qu'il y a eu, de pouvoir enfin pouvoir le fêter dans de meilleures conditions, je pense que ça a été un projet qui a dû être compliqué à mettre en place.
Ouais, alors on a commencé à le préparer début 2021, un peu dans l'incertitude, forcément, compte tenu de la situation sanitaire. Mais c'est surtout un événement qui a pu lancer la saison et rassembler un peu tout le monde après ces moments un peu compliqués. Donc ça a permis de faire une grande fête avec les bénévoles, qui étaient plus là pendant un moment en présentiel au club. Rassembler aussi toutes les sections, des plus petits, des 3 ans jusqu'aux plus anciens. Je crois notre plus vieux licencié a quasiment 90 ans. Voilà, ça a fait une très belle fête sur 2 jours. Et puis on a eu la chance d'avoir un plateau assez exceptionnel aussi.
Si tu veux, on reviendra dessus Mais avant, on va parler un peu de ton parcours. Donc, t'expliquais que tu étais en responsable de un peu de la com et de tout ce qui allait autour. Mais t'es aussi joueur. Alors, t'as commencé directement dans le milieu du rugby ou t'as eu un parcours différent, plus jeune?
Alors j'ai commencé par pas mal de sports, mais tout petit, et je suis tombé dans le rugby, je crois, à 7 ans. Mon papa est rugbyman, du coup à Rouen, dans la Loire. J'ai été formé là-bas toute mon école de rugby, et après je suis parti en sport-études à Villefranche-sur-Saône, qui est un club donc en Fédéral 2, où j'ai eu la chance de goûter à la Fédéral 2 dans un club qui avait l'ambition de faire jouer les jeunes. Voilà. Ensuite, je suis allé dans un autre club, donc à côté de Lyon, à Tara exactement. Et moi, ça fait là, j'attaque ma deuxième saison avec le SCO. Enfin, deuxième saison, c'est un peu un grand mot, puisque l'année dernière, 5 matchs, et puis on nous a coupé un peu dans notre élan. Donc voilà.
Donc pour situer le niveau, Fédéral 2, c'est du National 2.
Ouais,
au niveau du foot, pour comparer.
À peu près. Le rugby a rajouté une division un peu tampon entre le monde professionnel et le monde amateur qu'ils appellent la nationale, qui est en dessous des deux premières divisions pro. Donc c'est ça. Et là, du coup, le SCO Rugby, on est en Fédéral 3, donc à peu près une équivalence nationale 3.
D'accord. Donc ça fait pro A, pro B,
ouais,
national,
ouais.
Et après
les fédérales.
Les fédérales.
C'est ça.
Donc je suppose que voilà, donc les motivations du club, c'est de monter au fur et à mesure les échelons et peut-être d'aller au moins jusqu'en national. Après, pour l'instant, c'est peut-être compliqué, ne serait-ce que par la structure qu'il faudrait mettre en place pour espérer un jour, ne serait-ce qu'une Pro B ou même une,
ouais,
nationale.
Alors le projet, déjà, on va dire à court terme, est de pouvoir envisager une montée en Fédéral 2 d'ici à 2023. Après, on sait que dans une ville de la taille d'Angers, avec le bassin économique qu'il y a, on peut aller viser plus loin sur du moyen long terme. Après, on ne veut pas aller voir trop loin tout de suite. On ne veut pas se brûler les ailes. Dans le rugby, il y a tellement d'exemples de clubs qui sont allés voir très haut et qui sont vite retombés. On préfère regarder l'avenir sereinement, en ayant déjà un objectif de Fédéral 2 d'ici à la fin ou la saison prochaine.
Du coup, ton poste?
Sur le terrain.
Sur le terrain, oui.
Ouais,
oui.
Sur le terrain. Alors, ce week-end, j'étais à l'arrière contre Massif Central. Et moi, je joue aussi bien ailier que arrière. Donc, 11, 14 ou 15.
D'accord. Est-ce que tu as déjà des questions par rapport au parcours?
Oui, j'avais une petite question par rapport au parcours. Tu as évoqué que quand tu étais plus jeune, tu as goûté un peu à quelques sports. Et qu'est-ce qui t'a plus attiré finalement dans le rugby? Tu nous as parlé que ton père était rugbyman, mais est-ce qu'il y a autre chose que ça qui t'a attiré naturellement vers le rugby? Est-ce qu'il y a des valeurs que ce sport défend qui t'attirent vraiment et qui sont en corrélation avec toi?
Ouais, alors déjà il y a, ouais, bien sûr les valeurs, et aussi on dit souvent que le rugby, c'est se créer des copains pour la vie. Clairement, moi aujourd'hui, les personnes avec qui j'ai été formé dans mon équipe, c'est des personnes que je revois encore régulièrement. Et après, oui, tout un tas de valeurs assimilées au rugby, le respect des autres, et puis bah aussi, pas tout de suite tout petit, mais après j'ai découvert aussi l'ambiance des troisièmes mi-temps en rugby, mine de rien, et tout ça, c'est, ouais, j'ai découvert des vrais amis pour la vie avec le rugby, et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et puis dans un deuxième temps aussi, c'est un sport où on peut un peu canaliser toute son énergie sur le terrain, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai commencé par le judo, qui est beaucoup plus carré, et là le rugby, c'était un peu plus libre, je pouvais m'exprimer un peu mieux, et c'est vrai que ça, c'est pour ça que ça a tout de suite accroché, et j'ai continué et je continue encore.
Ah, ça peut aider, hein, le judo pour les plaquages, hein, aussi bien pour les recevoir que,
c'est ça, ça m'a aidé
que
aussi
les
pour
données,
les chutes.
Mais pour les chutes, voilà. Ouais. C'est un peu le parcours de beaucoup de jeunes généralement qui décroussent, soit par les parents qui les inscrivent d'abord au judo, ou dans les écoles où il y a beaucoup d'initiations.
C'est ça.
Justement pour travailler la motricité, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, bah, c'est vrai que tu l'as déjà évoqué, mais c'est vrai que le rugby, on parle souvent de ses valeurs. Mmh. Et c'est vrai que pour un sport qui est quand même relativement jeune, on va dire, en termes de milieu professionnel, il y a toujours ces valeurs quand même du milieu amateur qui restent, je trouve, quelles que soient les divisions. Et c'est vrai qu'on entend moins de scandales dans le milieu du rugby que dans le milieu professionnel du foot, ou même des fois les autres disciplines, hein, basket, hand, on a des fois plus de scandales dans des sports comme ça, pourtant,
oui, c'est
qui
clair.
Sont moins professionnels que le foot, mais qui arrivent à avoir des dérives. Et c'est vrai que le rugby, à travers les différents figures emblématiques du sport, on a très peu d'histoires de magouilles ou de... Ouais, ou de scandale, enfin il y a, et c'est vrai que enfin c'est le côté qu'on retrouve dans le milieu amateur, voilà, le milieu amateur, je pense qu'il est, c'est peut-être un des milieux amateurs qui est peut-être le plus sain sur des clubs généralement comparé à d'autres disciplines, quoi.
Ouais, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de choses comme ça dans le rugby, mais c'est vrai qu'on est un sport relativement épargné. Et parce que depuis les tout petits, en fait, on transmet ces valeurs de respect de l'autre, aussi bien la personne qui nous accompagne sur le terrain que la personne qu'on va croiser en face. Et au final, ce fait de se confronter physiquement sur le terrain, dans le cadre des règles, fait que une fois sorti du terrain, il y a un énorme respect. Là, notamment ce week-end, on a joué contre Massif Central. Ils sont restés faire la troisième mi-temps avec nous jusqu'à quasiment 21h alors qu'ils rentraient à Paris. Et là, c'était vraiment les vraies valeurs du rugby qu'on apprécie, qu'on a pu voir ce week-end.
Moi, un vrai truc au niveau du rugby qui m'interpelle à chaque fois positivement, c'est le respect de l'arbitre. Alors les seuls exemples que j'ai, pardon, c'est les matchs qu'on voit à la télé. On voit rarement les joueurs parler mal à l'arbitre, insulter l'arbitre. Et puis l'arbitre a quand même des dispositifs aujourd'hui. Il y a la vidéo depuis quelques années dans le rugby. Il a des oreillettes. Les arbitres sont vachement protégés quand on compare par exemple avec des matchs de foot. Ça n'a rien à voir. Et donc je pense aussi que ça, on le retrouve dans les catégories jeunes. Et donc ça, c'est un très très gros point positif du rugby, c'est le respect, comme tu as dit, des adversaires, mais pas que, des personnes qui font en sorte que le match se déroule bien.
Ouais, voilà, c'est ça, il y a le respect de toutes les personnes environnantes, que ce soit même quand on va à l'extérieur, les bénévoles, et l'arbitre aussi. Aujourd'hui, le rugby, on est peut-être le seul sport où il y a un grand gaillard de 1m95, 150 kg, qui peut se faire reprendre par un petit monsieur qui, l'arbitre, le week-end, peut faire 1m50. Mmh. On est le seul sport, et c'est inculqué, ouais, depuis les tout petits, les enfants qui auraient tendance à un peu râler après l'arbitre, etc., ou même ne presque après les entraîneurs, hein, très vite sont recadrés. Et c'est ça un peu qui fait aussi le charme de notre sport. Il y a souvent des petites punchlines entre arbitres et joueurs sur les pelouses de top 14, mais c'est toujours avec bienveillance et avec humour. On voit jamais un arbitre et un joueur se confronter tête contre tête. Non, chez nous, c'est pas possible.
Ouais, puis enfin, au niveau professionnel, c'est vrai que je pense que la peur du gendarme est vachement plus présente que dans d'autres milieux, puisqu'on sait que tout ce que l'arbitre va dire, on aura toujours une preuve. Puis quand on voit les matchs, de toute façon, on entend exactement ce qu'il dit.
C'est ça.
Alors sûrement avec du décalage selon les matchs, ou ça selon les enjeux. Mais c'est vrai que, mine de rien, alors les arbitres, ils ont cette pression aussi, donc voilà, d'essayer d'être plus juste. Les joueurs, ils savent qu'un mot de travers, de toute façon, tout sera à un moment donné. Et on le voit même des fois, on a eu quelques cas en équipe de France où des écarts en dehors du terrain ont tout de suite été sanctionnés. Et ça n'a pas pris des proportions où ça fait scandale dans toute la France. Et souvent, on va peut-être en parler pendant une semaine, mais c'est généralement bien, bien traité en interne. C'est expliqué. Enfin, la fédération. Alors, je suis pas toujours d'accord avec ce que fait la fédération. On sait que voilà, même dans la fédération, des fois, il y a des choses qui peuvent paraître bizarres vu de l'extérieur. Mais je trouve qu'ils ont cette honnêteté dès qu'il y a un souci, de l'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé et de justifier leur choix. Ils laissent pas quand il y a une grosse sanction dans le milieu professionnel, il y a le message qui est quand même aussi envoyé fermement aussi au milieu amateur pour pas que ça fasse vague, quoi.
Ouais, c'est ça. Typiquement, il y a l'exemple du demi de mêlée l'ex demi de mêlée de Provence Rugby qui a eu des propos racistes sur le terrain, qui a été suspendu quasiment un an, et là aujourd'hui son club vient de le licencier. Donc c'est que voilà, quand il y a des dérapages, les actes, derrière les instances, tout le monde du rugby prend les décisions en conséquence pour que ces choses-là ne puissent plus arriver.
C'est ça. C'est... On va peut-être revenir plus en, quand oui. même sur le club, parce que bon, ça permettait de faire l'introduction sur le club, et c'est vrai que bah, tu parlais des valeurs, et c'est vrai que ça se ressent à travers par, là, le calendrier que tu nous avais fourni pour préparer l'émission. C'est vrai que le mot valeur revient régulièrement. On voit qu'il y a une, dans les valeurs qui sont défendues, bah, c'est le côté familial, le côté on est tous ensemble, l'apprentissage voilà, de, par tout le monde. Tu pourras nous en dire un peu plus justement sur la, un peu la politique, j'ai envie de dire, du club par rapport à ces différentes sections, puisqu'on peut commencer très jeune, comme tu le disais, à 80 ans, être encore licencié dans le club. Ouais. Bon, je suppose qu'il joue plus, mais.
Plus, mais voilà. Semble, enfin, on a des licenciés de plus de 70 ans qui jouent encore en loisir.
Voilà, oui, après, c'est ça, voilà, il y a au moins les entraînements, histoire de se maintenir en forme, mais.
Donc ouais, du coup, nous au niveau du SCO Rugby, ben, on défend pas mal de valeurs, dont notamment le vivre ensemble. On a une politique sociale très grande. On a lancé il y a plusieurs années une opération, un essai transformé pour l'emploi, où en fait on utilise le sport pour aider des personnes éloignées de l'emploi à se réinsérer bah, dans l'emploi. Donc on a tout ce côté-là et on est une grande famille axée sur la formation. Aujourd'hui, on peut être fier d'avoir pas mal de joueurs qui sont au niveau, mais dès tout petit, donc dès 3 ans, avec le baby rugby, où on apprend aux jeunes, bah, clairement, c'est de la motricité, hein, mais et l'imaginaire, on leur apprend, du coup, on leur inculque toutes ces valeurs. Et après, dans les catégories supérieures, on les accompagne vraiment dans leur apprentissage de devenir un homme et devenir une femme, puisque on a aussi une grosse section féminine qui prend de plus en plus d'ampleur. Du coup, nous, sur les catégories jeunes, on a des parcours performance typés centre de formation, donc nous c'est un centre d'entraînement, avec les jeunes, pour ceux qui veulent développer tout leur potentiel, on veut leur donner tous les outils en main pour pouvoir aller le plus loin possible. Et donc quand je parlais de vivre ensemble, c'est aussi accueillir bah, tous ceux qui veulent venir essayer le rugby, donc que ce soit en senior ou en jeune dans toute la partie compétition, mais en senior on a aussi des sections loisirs, donc là on a une section loisirs à 15, donc où là il n'y a pas de limite d'âge pour pratiquer, et on a aussi une section loisirs à toucher qui permet de pratiquer le rugby sans contact. Le plaquage est remplacé par un toucher à deux mains, et cette pratique là peut être mixte. Et donc se pratique en loisir ou en compétition. Il y a des tournois à peu près une fois par mois pour ceux qui le veulent les dimanches matins.
Donc c'est un peu comme avec ce qu'ont mis en place les Yankees, avec le flag, justement, qui est la partie, on va dire, plus sympathique, où il y a moins d'engagement.
Voilà, c'est ça, qui est plus accessible à tous.
Plus accessible à tous, voilà, qui peut être une porte d'ouverture, justement, pour découvrir plus facilement, sans avoir des craintes de se blesser dès les premiers entraînements ou dès les premières compétitions.
Ouais, alors le 5 reste quand même bien physique, hein, ça fait bien courir, mais voilà, il y a pas les potentielles blessures liées au contact, c'est ça.
Justement, on parle de blessures et ça fait aussi partie de la prévention et de la formation. Au niveau du club, ça passe par de la sensibilisation aux entraînements. Vous avez des partenariats avec certains services, par exemple du CHU pour ouais. mener des études, des choses comme ça.
Alors nous, au niveau, on va dire, de la section senior et toute la filière performance, donc sur nos catégories jeunes, on a une cellule médicale. Donc on a la chance d'avoir notre demi d'ouverture qui est ostéopathe et qui a monté toute une cellule médicale autour de lui avec des kinés, des chirurgiens, et en fait on a surtout des facilités pour avoir des rendez-vous. Aujourd'hui on a un kiné qui est capable quasiment de nous prendre le lendemain. Au niveau des entraînements, on va dire que nos coachs sur tout ce qui est séances de musculation nous font beaucoup travailler la proprioception, les choses comme ça, pour que la musculation ne soit pas juste un outil comme ça, mais vraiment un outil au service de la performance et de l'intégrité du joueur.
Oui, parce que c'est vrai c'est plus chez les jeunes, c'est vrai que récemment il y a eu des débats sur certaines actions de jeu qu'il faudrait peut-être soit enlever ou ne pas enlever, ça c'est encore un autre débat, mais c'est vrai que du coup les clubs sont obligés plus ou moins de s'adapter autour de ça pour éviter les accidents. Je suppose que bah, des fois on a des jeunes qui ont envie de rentrer dedans parce que pour eux ils pensent que c'est ça, et c'est vrai que derrière il y a tout le travail d'explication de pourquoi vous pouvez pas faire tel mouvement alors que d'ici un an ou deux vous pourrez le faire.
Voilà, bah nous au club, on a vraiment la chance d'avoir des éducateurs qui sont très tournés sur le jeu de mouvement et qui savent très bien expliquer. En plus, on a des très bons éducateurs et en nombre en plus. Et après, la fédération avait pris aussi des mesures. Aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé le rugby, on jouait tout de suite à plaquer dès le début de saison. Là, dans les catégories les plus jeunes, la première partie de saison, souvent, est à toucher. Pour vraiment apprendre ce jeu de mouvement, prendre les intervalles, parce qu'à toucher, si on est trop près du défenseur, bah le jeu s'arrête. Et du coup, ils ont le temps, sur la première partie de saison, de s'entraîner progressivement à apprendre à plaquer, avant d'arriver sur les tournois en seconde partie de saison, où là, ils vont pouvoir vraiment plaquer.
Puis après, voilà, je pense que ça doit être ressenti aussi de l'entraîneur des sections, selon les gabarits qu'il a dans son équipe.
Ouais, voilà, on a des joueurs à gros gabarit qu'on n'hésite pas à surclasser s'il faut. Même si sur les catégories jeunes, techniquement peut-être ça suffit pas. Voilà, au bout d'un moment, si physiquement il est au-dessus, on va le mettre au-dessus et puis il continuera son apprentissage ballon en main. Ça, il y a aucun souci.
As-tu des questions, Max, par rapport à la formation du dans le club ou sur les différentes sections?
Bah écoute, j'ai tout compris et je pense que vu que j'ai tout compris, les auditeurs ont dû tout comprendre. Donc pour l'instant, c'est assez clair, mais oui, j'hésiterai pas à intervenir, bien sûr, s'il y a un point que j'aimerais un peu plus développer. Pour l'instant, Cédric, tout est parfait.
Alors ce que je te propose, c'est comme Alex devrait pas tarder, on peut peut-être déjà marquer une première pause musicale, histoire de faire une pause de notre côté, comme ça, s'il arrive, il pourra s'installer sans souci et puis on continuera le fil de l'interview ensuite.
Exactement, et donc pour cette petite pause musicale, on va s'écouter le nouveau titre de Adèle qui a fait son retour très récemment. On va écouter donc Easy on Me.
We are both so deeply stuck in our ways.
de retour dans les studios de Radio G pour la suite de Génération Sport. Un invité surprise nous a rejoint dans le studio. Alors, vous l'aurez deviné, c'est
un invité. Je dirais un invité humide.
Alors, plus humide que surprise, puisque Alex nous a rejoint. Bonsoir Alex, comment tu vas ?
Ça va bien, effectivement, un peu trempé parce que ça fait une demi-heure que je marche sous la pluie. Mais voilà, ça en vaut le coup puisque voilà, je suis avec vous pour cette émission de Génération Sport.
Eh bien, tant mieux, et on aura l'occasion de t'écouter à mes côtés pour la fameuse chronique, hein, tout ce qu'il faut retenir sur les actualités sportives locales et internationales. Mais en attendant, Cédric va continuer de parler avec Thomas. On rappelle Thomas qui est là pour représenter le SCO Rugby. Cédric, c'est parti pour la deuxième partie de cette interview.
Pour la deuxième mi-temps.
La deuxième mi-temps, exactement.
On va revenir justement, on en parlait un petit peu là pendant la pause, sur la période Covid. On sait que tous les sports ont été à l'arrêt. Il y a eu des redémarrages plus ou moins compliqués selon les sections et les sports. Comment ça s'est passé justement pour le SCO Rugby? Et comment ça s'est résolu, j'ai envie de dire, avec le retour en fait de la saison officielle?
Alors nous, au niveau du club, on a eu la chance de pas vraiment couper. En fait, il y a que le premier confinement, donc même avant que j'arrive, où le club était à l'arrêt. Et après, sur les deuxième et troisième confinements, vu que les activités en extérieur pouvaient continuer, nous, au niveau du rugby, on a pu continuer. Sur le premier confinement, c'était par petits groupes de 10. On avait un jeu totalement sans contact, donc on faisait beaucoup de physique et de technique individuelle. C'était un ballon par personne, des choses comme ça. Heureusement, au niveau du club, on a aujourd'hui 3 salariés sur la partie sportive. Et en plus, on a aussi des apprentis qui peuvent faire des entraînements. Donc, on a pu en fait avoir une offre, je vais dire, même limite plus importante qu'en temps normal sur les deux confinements suivants, où en fait, on proposait du coup des entraînements un peu à la carte à nos jeunes, beaucoup sur la technique individuelle. Et puis après, progressivement, fin du printemps, début de l'été, on est revenu au jeu à toucher, puis au jeu à plaquer. Et nos jeunes ont même pu faire un plateau à Saint-Nazaire en toute fin de saison, je crois fin juin c'était, ou début juillet. Et nous, au niveau des seniors, par contre, on a repris sur du jeu à plaquer réellement fin juillet, début août, pour préparer la saison. Et là, enfin, tout le monde est reparti au club. Nous, on a joué déjà 5 matchs de championnat. Tous nos jeunes ont déjà fait au moins un plateau à l'extérieur avec une pratique vraiment complète.
Protocole du coup sanitaire pour votre niveau?
Ouais. Alors nous, tous les joueurs présents sur le terrain doivent présenter un pass sanitaire actif et même à l'entraînement, donc pour les matchs et pour les entraînements. Donc à partir de 12 ans, nous, tous nos jeunes doivent avoir un pass sanitaire, sinon ils ne peuvent pas s'entraîner.
Ça a dû être peut-être un peu compliqué au début à mettre en place, ne serait-ce que pour les déplacements, les choses comme ça pour les premiers matchs, hein.
Alors bah, la fédération, nous, a assez bien communiqué dessus, assez longtemps à l'avance par rapport à la mise en place de ça. Donc nous, on n'a pas eu trop de soucis. Les joueurs qui avaient peut-être un peu de retard dans leur passe sanitaire, en fait, n'étaient pas forcément aux entraînements et ont vraiment attendu d'être à jour pour venir. Et au début de la saison, on avait tout le monde d'opérationnel et de prêt à jouer.
D'accord. Donc, du coup, la saison a commencé. Donc, pour l'instant, au niveau des sections, comment ça se passe? C'est plutôt une reprise assez compliquée ou le niveau est toujours là?
Alors, sur les équipes jeunes, si, ça se passe très bien sur l'école de rugby. Nos cadets, eux, performent. Je crois qu'ils ont marqué 120 points en 3 matchs et en n'en ont encaissé que 3. Au niveau de nos juniors, c'est un peu plus compliqué. Là, ils ont 2 défaites à pas grand-chose. Il leur manque ce petit step pour aller décrocher la victoire. Notre équipe féminine senior, qui est devenue exclusivement SCO cette année, avant c'était une équipe en entente, se construit progressivement. Pareil, a fait un gros match sur son dernier match. Malheureusement, la victoire n'est pas au bout, mais on se doute que la prochaine fois, ça viendra. Et nous, au niveau des seniors, on a enfin eu le déclic ce week-end contre Massif Central. On avait eu un début de championnat plutôt compliqué, avec une équipe en construction. On a une moyenne d'âge d'à peine 24 ans. Les recrues de l'an dernier, dont je fais partie, et il y a d'autres joueurs aussi, ben, on n'a fait que 5 matchs avec les gars, donc faut qu'on se mette dans le moule aussi, en plus de ceux qui sont arrivés cette année. Et là, enfin, ce week-end, on a décroché la victoire en première et en réserve. Donc voilà, on se dit que là, c'est bon. On a eu le petit déclic pour pouvoir enchaîner et notre saison a enfin débuté.
D'accord. Le championnat avait commencé quand ?
Le championnat avait commencé fin septembre, c'était le week-end après nos 100 ans.
D'accord, oui, donc enfin, entre la reprise d'effectif des entraînements classiques et le début du championnat, ouais, il a fallu trouver du temps de jeu
pour
trouver les bons mouvements, les choses comme ça. Effectivement.
On a quand même réussi à avoir deux matchs amicaux pour se préparer, mais c'est vrai que... à peine 2 mois de préparation avant le championnat, alors qu'on a eu quasiment un an sans jouer, ouais, faut retrouver les automatismes. Après, j'ai envie de dire, tout le monde était dans le même bateau, toutes les autres équipes étaient pareilles. Voilà, on a eu un retard à l'allumage qui, là, je pense, est comblé. Et vu la prestation qu'on a fait ce week-end, on voit la suite plus sereinement qu'il y a 2 semaines.
Et tu peux expliquer comment se déroule un peu le championnat ? En termes de montée, descente, de nombre de participants ?
Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année prochaine, il y a une réforme des compétitions par la Fédé. Du coup, cette année, on est sur des poules de 10. Si je ne me trompe pas, les 4 premiers sont qualifiés en phase finale, qui est un peu la spécificité du rugby. On peut finir premier de poule et ne pas monter, puisqu'en fait, il faut passer un tour de phase finale pour envisager la qualification. Et donc, il y a 16 équipes au total qui montent, et on doit être, je crois, 18 poules de 10 au total. Donc là, ça fait à peine 10% d'équipes qui montent. Mais étant donné que ouais, 4 équipes sur 10 font les phases finales, et après, tout peut se passer en phase finale. On se dit que même nous, il y a peut-être quelque chose à aller essayer de chercher en phase finale.
Et le dispatchement se fait comment, du coup ? Région ?
Ouais, c'est ça. En fait, on est à un niveau donc national, mais avec des poules qui sont plus ou moins régionales. L'année dernière, on avait une poule qui était Pays de la Loire-Bretagne. On allait jusqu'à Plouzané, à côté de Brest. Là, cette année, on a été basculé de l'autre côté. On va beaucoup en région parisienne et Centre-Val de Loire. On a 4 équipes de l'Île-de-France dans notre poule.
D'accord, ouais, ça fait quand même quelques petits déplacements qui peuvent être un peu longs.
Ouais, c'est ça. Ça fait des jolis déplacements quand même.
Comme on le rappelle, c'est un club amateur. Forcément, les matchs, généralement, quand c'est comme ça à l'extérieur, c'est plutôt le samedi.
Alors non, nous, au rugby, on joue le dimanche.
Dimanche, du coup.
Mais un match, par exemple, à Paris, il y a 2 semaines, on était à Paris, c'est un départ à 8h, un retour à 22h. Donc voilà, le dimanche, on l'oublie quand on joue au rugby.
Ouais, ça doit pas forcément être évident quand on doit jongler, du coup, avec le travail à côté...
Ouais, bah ouais, c'est ça.
Les phases de récupération, là, je pense qu'on les apprécie quand il faut, quoi.
Ah bah ouais, nous, il n'y a aucun des joueurs qui vit du rugby à l'heure actuelle. Tous les gars ont un boulot à côté ou sont étudiants. Donc, faut arriver à récupérer. Et puis, on a 3 entraînements par semaine. Donc, faut arriver à jongler entre les entraînements, les matchs et puis la vie à côté. Et puis, y a aussi la vie de famille, la vie avec les amis à jongler. Ouais, c'est. faut y arriver.
Je crois que le temps passe. On va parler du futur du coup du club. Donc dans les projets, il y a toujours le projet du stade.
Ouais, alors on a nous Monsieur le Maire à l'occasion des 100 ans nous a annoncé qu'on pourrait avoir une tribune temporaire, on ne sait pas encore quand, à la Baumette, parce que la Baumette aujourd'hui est le cœur du club. On a nos 5 terrains, on a notre club à housse, on a notre salle de musculation. Ah, on n'attend plus que les tribunes pour jouer là-bas, parce qu'aujourd'hui on joue au stade Miculac. Donc voilà, c'est un des projets qu'on attend avec impatience, mais sur lequel nous, pour le moment, on peut pas trop agir, si ce n'est être performant, faire parler de nous pour appuyer cette demande qu'on a faite. De toute façon, c'est dans le cahier des charges de la Fédérale 2, si on veut monter.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a des contraintes voilà, aussi qui font que soit il faut aller sur un autre stade, mais ça veut dire louer forcément des sommes en plus engendrées par le club.
C'est ça.
Mais le but, c'est à terme, c'est d'avoir donc son stade à côté du centre de formation, enfin du club. Et, voilà.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on puisse en fait avoir des tribunes et puis un des terrains qu'on a déjà qui puisse être fermé et que vraiment on ait nos terrains d'entraînement à côté de notre terrain de match et que tout puisse vivre au même endroit.
Donc tu peux rappeler justement où se trouve le club ?
Ouais, donc nous on est promenade de la Baumette sur le complexe sportif de la Baumette, donc à côté de nos voisins du SCO Foot, du Angesco. Oh. On est juste à côté.
C'est simple, c'est le terrain qui est... Quand vous passez sur la rocade, généralement, le week-end, vous voyez qu'il y a pas mal de monde. Généralement, c'est le rugby qui joue un match.
Voilà.
On les repère de loin pour ça. Pour l'instant, c'est un avantage, j'ai envie de dire, d'être à ciel ouvert. Hein.
Oui, oui, oui. Et puis, on compte bien rester à la
Baumette. Après, quand il pleut, c'est un peu plus dérangeant.
Oui, après...
Pour les spectateurs, je parle.
Voilà, pour les spectateurs. C'est pour ça qu'on veut une tribune couverte aussi, notamment.
Voilà. Et puis dans les autres projets qui seraient en cours, il y a encore des projets liés aux 100 ans ou...
Alors non, bah les 100 ans, nous, l'événement est passé. On a renouvelé aussi notre logo, qui ont été les très très gros projets de l'an dernier. Là, les projets à venir, c'est le projet sportif de montée. Et on a aussi lancé cette année notre centre d'entraînement, donc la formation sur les 18-23 ans. Et là, du coup, on a un projet de labellisation et aussi de labellisation de notre école de rugby. Aujourd'hui, elle est labellisée une étoile. On aimerait passer en trois étoiles. Il y a une dizaine de clubs qui ont ça en France. Ce serait reconnaître tout le travail qui est fait en formation. Et puis, on a continué aussi toutes les actions sociales qu'on a. Là, normalement, on devrait passer même un palier supplémentaire. Un essai transformé pour l'emploi, qui était une action locale, devrait pouvoir devenir une action quasiment régionale. Donc là, on va pouvoir aller même encore plus loin dans nos actions dans les mois, voire années à venir.
Max, Alex, avant que je laisse le dernier mot à notre invité, avant de passer au 1-2, est-ce que vous avez une question ?
Ouais, moi j'ai une petite question sur cette saison. Tu parlais de 4 places qui peuvent être donc qui peuvent accéder à la phase finale. Est-ce que c'est réellement votre objectif ? Est-ce qu'il y a un autre objectif ? C'est quoi vraiment votre but de cette saison ? Peut-être progresser, je sais pas. Tu parlais en début d'émission de à court terme monter. C'est quoi votre objectif cette saison ?
Alors, l'objectif de la montée est normalement fixé pour la saison suivante. Là, il y a une réelle carte à jouer. En temps normal, il y a... D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 16 équipes qui montent. Non, il y en a 24, justement parce qu'il y a la réforme des compétitions. Donc, on se dit qu'on a peut-être quelque chose à aller chercher. Compte tenu du début de saison, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, je pense que l'objectif est surtout d'essayer de se rapprocher le plus possible des phases finales, d'aller voir ce qui s'y passe. Et si on y est, pourquoi pas là, aller tenter un coup. Franchement, si on peut avoir la montée dès cette année, on va clairement y aller complètement.
Directement, ouais.
Et bien voilà, en tout cas, on va clôturer cette partie de l'émission. On va partir sur une courte page, alors page de pub non, mais on va passer à une pause musicale et puis on reviendra juste après pour le classique 1-2 entre Alex et moi.
Assalam alaikum, déjà t'as compris que je m'en bats les couilles. Lunettes noires parce que je mate des boules, je suis déchiré, je sens pas les coups. Un jour j'ai ramené deux meufs, c'était nul. Ça m'a rappelé que j'ai du mal avec une. On m'appelle Nekfeu quand on me croise dans la rue. Avant j'étais bizarre, maintenant j'assume. J'aime que les mangas, j'aime que les mangas. Et les films de Van Damme, et les films de Van Damme. J'prends pas de bouteille en boîte, j'prends pas de bouteille en boîte. À Carrefour c'est 20 balles. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir. Mais j'fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. J'mets que des t-shirts de geek. Japan Expo, c'est la Fashion Week. Tous les matins sont des lendemains de cuite. J'suis pas validé par la street. Marion Maréchal me suit sur Twitter. J'aimerais la baiser, briser son petit cœur. J'ai envoyé ma bite et un emoji fleur. Bonjour à papy, j'suis pressé qui meurt. T'as 10 followers, t'as 10 followers. Tu peux les voir en vrai, tu peux les voir en vrai. Fananananana, fananananana. J'aurais pu sauver la vieille France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir. Mais je fais de la musique de noir. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé. Christophe Maé, Kinvé, Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Maître Gims.
Lunettes noires, Pokéface, j'pose tapis, arrêtez de faire chier Bernard Tapie. Tu crames les mêmes pas de danse comme Shaki. J'sais plus quel effet ça fait d'être trois fois platine. Ooh yeah, j'te taquine, j'suis le pont entre Young Thug et George Moustaki. Le noir le plus aimé du central massif, j'comprends toujours pas pourquoi autant de blancs me kiffent. Bernard Minet, Bernard Minet, Bernard Minet, Gory. Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Johnny.
Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe Maé, Kinvé. Christophe Maé, Christophe Maé, Christophe.
De retour dans les studios de Radio G pour la suite et fin de Génération Sport. Nous venons d'écouter Aurel San en featuring avec Maître Gims sur le son. Christophe, on va donc commencer le 1-2, hein, cette chronique d'actualité sportive. On va commencer par les clubs locaux, à commencer par le foot et le SCO d'Angers qui jouait ce week-end à domicile face à l'OGC Nice. Les Angevins étaient pourtant bien partis dans la rencontre avec un penalty transformé par Sofiane Boufal. Mais malheureusement, les Angevins sont tombés sur plus fort que eux. Défaite 2-1 face au Niçois avec un doublé d'Andy Delors. Les Angevins qui enchaînent donc un troisième match sans victoire. Au niveau du classement, l'équipe angevine est un petit peu descendue avec une huitième place, mais avec tout de même à deux points de Rennes, cinquième. Donc rien d'alarmant pour nos amis angevins. Le seul point peut-être alarmant, c'est le prochain match avec un gros déplacement à Lille. Ce sera samedi prochain.
On va enchaîner avec le basket. C'était un sale week-end pour les clubs du Maine-et-Loire. L'UFAB, l'EAB et Cholet Basket ont tous trois perdu leur match de championnat. On va revenir sur ces trois défaites en commençant par la claque reçue par l'UFAB en déplacement dans la région lyonnaise pour y défier l'ASVEL qui adore du championnat de LFB. Les Angevines, en forme depuis le début du championnat, ont lourdement chuté à Villeurbanne contre les Lyonnaises 90-57. Une défaite qui les relègue à la cinquième place du classement. Autre information concernant l'UFAB, et elle est pour le moins inattendue, on en a parlé en début d'émission. La semaine dernière, nous recevions dans nos studios la joueuse malienne Touti Gandega qui nous parlait de sa carrière, de son début de saison. Et bien, sachez qu'on ne devrait plus la voir avant un bon moment, en tout cas ici à Angers. L'international du Mali a en effet décidé dans la semaine de quitter le club d'Angers, la faute très probablement à un temps de jeu réduit depuis le début de la saison en LFB, décision acceptée par le club qui dit donc au revoir à une des grandes artisanes de la remontée du club dans l'élite après 3 années de bons et loyaux services en Anjou. L'équipe de Génération Sport lui souhaite évidemment bonne chance pour la suite de sa carrière car on avait passé, les gars, un très bon moment en sa compagnie.
Normalement, c'est un rebond à Nantes.
Très
qui a été annoncé en justement en le niveau en dessous de voilà, où elle jouait l'année dernière.
C'est ça. Voilà. Et donc en tout cas pas très loin. Danger sans transition. On enchaîne avec l'EAB qui a été stoppé dans sa série d'invincibilité ce vendredi sur le parquet du stade Rochelet. Les joueurs de Sylvain Delorme restaient pourtant sur 7 victoires. En 7 matchs et notamment une déculottée infligée à Sergi Pontoise mardi dernier à Jambouin 98-60. Mais vendredi dernier, la partie ne tourna pas en leur faveur lors de leur confrontation face à La Rochelle. Ils y retrouvaient notamment un certain Thibault Lonzième, passé par Angers de 2010 à 2020 et qu'on a d'ailleurs déjà accueilli dans les studios de Radio G. Dans une rencontre très serrée, le sort de la partie se décanta en prolongation qui furent donc remportés par les Rochelais 86-85. Cette très courte défaite n'inquiète pas les Angevins, toujours leader de leur poule en national. Au moment de défier ce soir même l'Union Basket de Rennes à Jambouin, actuellement les Angevins ont remporté le premier quart-temps, donc ça part plutôt bien. Seconde mi-temps à suivre évidemment à Jambouin. Et puis on termine avec un petit mot de Cholet Basket qui a concédé sa 4e défaite de la saison en Betclic Elite. C'était face à Roanne, une défaite 105-81 dans laquelle les Choletais ont complètement pris l'eau dès les premières minutes de la rencontre avec notamment un premier carton perdu 37-16.
On va enchaîner avec les Ducs d'Angers qui ont fait une très très grosse semaine avec 3 matchs. Ça a commencé mardi dernier, on a pu vivre ensemble le début du match. C'était un match, les opposants à Mulhouse et les Angevins ont finalement remporté cette rencontre 4-3. Un peu plus tard dans la semaine, les Angevins défiaient pour la deuxième fois en très peu de temps les Dragons de Rouen, qui sont considérés à juste titre comme la meilleure équipe de cette Ligue Magnus. Et les Angevins ont une nouvelle fois perdu face à Rouen, défaite 4-2, mais les Angevins se sont bien rattrapés face à Anglet. Il me semble que c'était dimanche dernier, et les Angevins ont donc remporté ce match 6-2, comptant pour la Ligue Magnus. Ce soir, aucun match pour la Ligue Magnus, mais il y a un match de Coupe de France. Cédric, les Angevins sont toujours à l'AS Park pour y affronter les Gothiques d'Amiens. Le match a commencé depuis 20 minutes actuellement, toujours 0-0. Il nous reste 10 minutes d'émission, on n'hésitera pas à faire un petit point sur le score avec Cédric.
On va enchaîner vers le handball. Angesco a connu une nouvelle grosse déconvenue en déplacement à Valence ce vendredi. Les Angevins, qui avaient pourtant bien démarré la rencontre en menant 8-2 au bout de 10 minutes, ont par la suite complètement pris l'eau. À la pause, Valence menait de 5 points et a continué de creuser l'écart en deuxième période face à des scoïstes, inoffensifs et friables en défense. Cette deuxième mi-temps ratée se solda par une lourde défaite 38-25. Un nouveau coup dur pour les joueurs de Guillaume Dupin dans ce début de saison très compliqué. D'autant plus que la place est désormais à la trêve internationale pour une durée de 2 semaines. 2 joueurs notamment sont concernés, Steven Corneille, l'ailier congolais, et Mohamed Ali, le gardien égyptien. Dans 15 jours, les Angevins devront rebondir face à Dijon, deuxième du classement et dauphin du leader Ivry.
Allez, on va passer du côté des actualités mondiales. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes d'émission. On va entamer la page football avec d'abord la Ligue 1. On va évoquer les résultats de la 12e journée qui a eu lieu ce week-end avec un choc pour commencer. Le Paris Saint-Germain recevait les Lillois, champions en titre, et le PSG a souffert mais a finalement remporté ce match. Victoire des Parisiens 2-1. Et puis il y a également eu le but du week-end, mais également le but de l'année. C'est Wabi Kazri qui a marqué un lob, messieurs, de 68 mètres. C'est un record pour notre championnat. C'était lors du match face à Metz. Score final 1-1. Le bijou de Wabi Kazri n'aura pas suffi à Saint-Etienne pour s'imposer. Lyon qui reprend le bon sens de la marche avec cette belle victoire très importante face à un concurrent direct, Lens. Victoire lyonnaise donc 2-1. Montpellier a battu Nantes 2-0, Rennes et Troyes se sont quittés dos à dos 2-2, Strasbourg a infligé une très grosse défaite 4-0 face à Lorient, Bordeaux a gagné dans le temps additionnel grâce à Jimmy Briand, victoire bordelaise face à Reims 3-2, Brest a décroché sa première victoire de la saison face à un très gros poisson, victoire de Brest face à Monaco 2-0, et puis enfin l'Olympique de Marseille a remporté son match face à Clermont 1-0. Et puis il y a également de la Ligue des Champions qui reprend dès ce soir. On va juste parler des clubs français histoire de gagner un petit peu de temps. Ce soir, c'est Lille qui joue très gros dans sa poule avec donc un déplacement à Séville. Et puis vous aurez l'occasion de suivre le match du Paris Saint-Germain. Ce sera dès demain à 21h face à Leipzig.
Et sans Messi.
Effectivement, on va enchaîner avec du handball encore une fois. Montpellier surfe sur une excellente dynamique en Ligue des Champions dans laquelle ils ont enchaîné une 4e victoire en 6 matchs face à Zagreb la semaine dernière. Ce succès leur permet de se placer à la première position du groupe A. Une très bonne nouvelle pour le club héraultais en grande difficulté en championnat. Du côté du PSG, c'est quasiment l'inverse. Leader en Star League, les Parisiens sont seulement 4e de leur groupe avec seulement 2 victoires en 6 matchs, et leur dernière rencontre en date face à Kielce, premier du groupe, s'est soldée par une défaite 38-33. Autre information en balle, la prolongation de Nicolas Karabatic au Paris Saint-Germain a été officialisée hier sur les réseaux sociaux du club. Celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2023. Enfin, une dernière info qui concerne l'équipe de France. Après la retraite international de Michael Guigou en équipe de France. C'est Valentin Porte qui va prendre le brassard de capitaine des Bleus, un choix fort pour un groupe très rajeuni pour le prochain rassemblement des Bleus à l'occasion de la première journée de Golden League.
On va parler tennis maintenant avec le tournoi de Paris-Bercy où il y a déjà eu quelques surprises et quelques Français qui ont performé. Je vous rassure messieurs, c'est pas du tout le cas de Benoît Paire qui s'est incliné dès le premier tour.
Il a
fait sa spéciale et il s'est incliné en 2-7 face à l'Espagnol Carreño Busta, 12e au classement ATP mine de rien. Mais il y a quand même des Français qui ont performé dès le premier tour. On retrouve notamment Hugo Gaston qui a remporté son premier match, tout comme Adrien Manarino. Donc ça c'était hier, malheureusement Richard Gasquet lui a perdu tout comme Pierre-Hugues Herbert. Aujourd'hui en gros match il y a Djokovic qui affronte le Hongrois Fuxovic, hein, comme anecdote, hein, le Hongrois adversaire de Djokovic a battu hier Fonini, donc deux très gros matchs en deux rencontres. Aujourd'hui, il y aura Zverev en 16e de finale, on retrouvera également Medvedev et également Stefanos Tsitsipas, et donc Zverev qui a remporté il y a quelques jours l'ATP de Vienne.
Voilà, c'était la chronique d'actualité sportive, le fameux 1-2 entre Max et moi. On va clôturer avec un dernier mot de Thomas, si jamais tu veux rajouter quelque chose sur le club, sur toi, une dédicace à faire, n'importe quoi.
Le seul mot que je pourrais rajouter, c'est n'hésitez pas à venir nous voir. Aujourd'hui, c'est, on va dire que notre petit manque d'image fait qu'on a peut-être un peu moins de supporters que nos voisins du foot, du rugby, du basket, du hand. Donc voilà, le prochain match doit être le 21 au stade Miculac, donc dimanche 21 à 15h. Voilà, n'hésitez pas à venir. En plus, si on est dans une bonne dynamique, ça peut être sympa.
Évidemment, donc on vous invite tous à venir voir le Score Rugby. Cédric.
Non, mais je pense qu'on on a fait le tour. On te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Puis on souhaite encore un bon centenaire au club.
Et on va se tourner vers Max pour la fin d'émission. Max, je te laisse la main.
Oui, c'est ça. On remercie une dernière fois Thomas Floret, hein, qui est venu nous parler du SCO Rugby. On remercie également la DAL Angevine, puisque c'était une émission en collaboration avec la DAL. Justement, on se retrouvera pour parler des DALEux. Ce sera donc tous les premiers mardis du mois, comme vous en avez l'habitude. Et la prochaine fois, ce sera donc le mardi 7 décembre prochain. Quant à nous, on se retrouve même heure sur Radio G mardi prochain de 20h à 21h. On parlera de sport, ce sera Génération Sport. On vous souhaite une bonne fin de soirée